Bonjour et bienvenue sur le podcast OREMA, le podcast des mères entrepreneurs multiculturelles, mamans d'ici et d'ailleurs, mamans mais pas que. Je suis Lauriane, maman de deux garçons, experte en stratégie de contenu et email marketing et fondatrice de la communauté des mères entrepreneurs OREMA. Ma mission, c'est d'aider les mères et les femmes qui entreprennent à créer du lien avec leur audience grâce à une communication authentique. Ici, on parle donc d'entrepreneuriat, de communication, mais aussi de parentalité et de transmission. Parce que nous sommes des femmes complètes qui voulons une vie de famille comblée et une vie professionnelle épanouissante et valorisante. Si aujourd'hui tu peux écouter ce podcast, c'est grâce à la communauté OREMA, un espace positif à destination des mères entrepreneurs, mêlant le réseau professionnel et la communauté d'entraide. Alors rejoins-nous et sors de la solitude de l'entrepreneur en te rendant sur orema.fr/communauté. Pour ne manquer aucun épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Dans l'épisode du jour, j'ai échangé avec Diana, maman d'une petite fille et psychologue en libéral. Elle mène également des investigations pour son département dans le cadre de l'adoption et pour les familles d'accueil. On a enregistré cet échange au moment où j'avais décidé de prendre une pause après la saison 4. C'est donc un épisode qui est dans les tuyaux depuis très longtemps. Je ne pensais pas mettre autant de temps à le sortir, mais le voici enfin. Diana nous raconte son parcours depuis son BEP secrétariat à son métier actuel, en évoquant le sujet des orientations parfois compliquées dans certains quartiers. Ensemble, on a aussi vu l'impact du social sur les individus. C'est d'ailleurs ce qui est au cœur même de sa pratique. Comment prendre sa place dans un milieu dans lequel tu n'es pas forcément attendu et comment accompagner au mieux les parents? Sans plus tarder, je te laisse découvrir notre conversation. Et bonjour Diana.
Bonjour Lauriane.
Comment vas-tu?
Eh ben écoute, ça va, je suis ravie d'être avec toi là, donc ça va très bien.
Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir. On avait évoqué l'idée d'enregistrer un épisode toutes les deux pendant longtemps.
Oui.
Et finalement, on y est. Donc c'est une très bonne chose, je suis très contente. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter aux personnes qui nous écoutent?
Ouais. Alors donc je m'appelle Diana, donc je vis dans le Jura. Je suis du coup maman multiculturelle d'ici et d'ailleurs, pour reprendre ton ton petit slogan, d'une petite fille qui a 3 ans et demi. Et je suis psychologue, donc je travaille en libéral, je fais de la psychothérapie et je fais des investigations pour le département dans le cadre de l'adoption et pour les familles d'accueil. Et je suis en train de créer mon organisme de formation pour où je me spécialise sur les enjeux psychiques et l'impact du social sur nos vies, en fait. Donc sur les vies de personnes minorisées, oppressées.
Et ces formations seraient à destination de professionnels?
À destination des professionnels de l'accompagnement.
D'accord, ouais. Ok. C'est super intéressant. Ça fait une palette vraiment large d'activités pour toi. Et tu as dit que tu étais une maman multiculturelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça?
Ouais. Donc moi, je suis la fille d'une maman française et d'un papa d'origine algérienne. Et puis, je suis la maman d'une petite fille dont le papa est d'origine martiniquaise.
D'accord. Donc, ça fait pas mal d'influences culturelles, ouais, qui se côtoient dans la maison.
C'est ça.
Et ta petite fille a 3 ans et demi.
Oui.
Tu travailles donc dans la psychologie.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a emmené à ça et qu'est-ce qui fait aussi que tu es intéressée par le côté social derrière ça?
Alors, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Alors, c'est un peu... Bon, moi, j'ai grandi dans un milieu populaire, j'ai grandi en HLM, avec ma double culture, etc. Et donc, ça a été compliqué. Hein. Après la troisième, je suis allée en BEP, donc j'ai bien collé à toutes les à toutes les statistiques, on va dire.
Donc, tu peux nous en dire un petit peu plus, hein. Est-ce que tu étais dans une famille, quand tu parles de statistiques, entre beaucoup de,
ouais,
gens, est-ce que tu avais beaucoup de frères et sœurs?
Donc j'ai une grande sœur et un petit frère, donc on a 8 ans d'écart. Mon papa était ouvrier, ma maman a plus ou moins bossé, pas bossé, enfin bon voilà, elle a eu des problèmes de santé aussi, donc j'ai grandi dans tout ça. dans un milieu très 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 éclectique, enfin dans un quartier quoi, où du coup moi je parle pas arabe, mais je connais, c'est les mots, je connais autant de mots de turc que d'arabe, parce que du coup ben voilà, donc voilà, ça a vraiment fait partie de qui je suis. Et donc après, en fin de troisième, il a fallu choisir mon orientation scolaire, ça a commencé à être un petit peu complexe, et j'ai choisi un BEP secrétariat, et il y avait deux lycées, il y avait un lycée un peu moins bien coté que l'autre. Moi, j'étais trop heureuse d'être dans le lycée qui était un peu plus valorisé, on va dire, sachant que j'étais en BEP secrétariat, qui était quand même le bas du bas du bas du choix de fin de troisième. Donc, ça dit quand même quelque chose. Et après, je me suis accrochée, j'ai chopé les... Voilà, je suis retournée en première d'adaptation, j'ai fait un bac technologique, commerce. Et après, en terminale, il a encore fallu faire un choix d'orientation. Je voulais aller à la fac. Au départ, je voulais faire de la sociologie, donc ça fait déjà partie de moi depuis toujours, tout ça. Et puis je me disais, bah non, il n'y a pas de débouché en sociaux, donc plutôt psycho. Ma prof de terminale était sur mon dos à me dire, non, avec un bac technologique, ne va pas à la fac, tu ne vas jamais y arriver. J'avais des camarades de classe qui avaient choisi la compta plutôt que le commerce, parce que le commerce, en tant qu'arabe, c'était pas possible. Donc voilà. Voilà. Milieu, donc j'ai grandi côté de Sochaux, Peugeot. Donc voilà, ça te dresse un peu le contexte culturel dans lequel on était. Et bah tête de mule, tu me dis ne va pas à la fac, bah, je vais y aller encore plus. Donc je suis allée en fac de psycho, en me disant psychosocial, psycho, je voyais un métier, socio, j'en voyais pas. Donc j'ai pris le voilà. Et en fac de psycho, bah j'ai été assez déçue parce que c'était très psychanalytique et ça ne me parlait absolument pas. Donc suite à mes deux premières années, j'ai bifurqué en sciences d'éducation, donc sociologie de l'éducation, etc. Donc j'ai choisi l'enseignement. J'ai enseigné quelques années en tant que contractuelle, mais la psycho me manquait et donc j'avais grandi quand même. Et donc je suis repartie en fac de psycho quelques années après. Et donc voilà, j'ai travaillé quelques années et j'ai repris mes études en travaillant. Donc j'avais 26, 27 ans, quelque chose comme ça, avant d'avoir ma fille, hein, parce que je crois que sinon j'aurais pas pu.
Oui, travail plus enfant plus études, élan explosif.
Et donc à ce moment-là, j'ai choisi la psychosociale comme spécialité.
D'accord, c'est très intéressant. Et c'est en fait, tu t'es un petit peu adapté à quand t'allais quelque part, tu vois que ça te plaisait pas trop, tu voilà. Et sans avoir forcément trop écouté ce qu'on te disait que tu pouvais ou ne pas faire, mais plus
Ouais.
voyant un peu ce que tu avais envie de faire, ce qui
C'est
t'intéressait, ce qui
ça.
te plaisait. Et ça, c'est finalement, c'est on peut dire que c'est admirable parce qu'on est encore jeune à ce moment-là. On est assez influençable, donc on peut écouter un peu tout ce que la figure d'autorité à l'école nous dit et suivre un peu simplement se laisser porter par tout ça.
C'est ça.
Donc c'est super que tu aies pu avoir ce courage-là de t'écouter et d'aller un peu à l'encontre
Bah puis là je te
de
le décris en 2 minutes, mais ça a été ultra éprouvant en fait, hein. C'était très 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 dur, hein. À résumer en 2 minutes, tu te dis voilà, mais ça a été voilà. Bon, mon mémoire de sciences d'éducation, je l'avais fait sur les jeunes de milieu populaire qui réussissent à l'université. Et ça a pas plu à la soutenance, donc je me suis fait démonter. Donc après j'ai beaucoup perdu confiance en moi, déjà qu'elle était pas ouf. Donc tu vois, il y a quand même eu des moments où j'avais dit bon, j'arrête tout. Et du coup bah après je suis devenue psychologue.
Qu'est-ce qui t'a motivé à continuer justement?
Ouais, je suis devenue psy. Donc là j'ai
Sinon, je te demandais qu'est-ce qui t'a motivé à continuer?
Je pense que c'est bah alors dans l'enseignement, voilà. Quand j'étais enseignante, j'étais particulièrement touchée par les petits, donc voilà, qui étaient mis à part. Voilà, j'ai fait beaucoup de maternelle, donc j'avais quelque chose d'assez éclectique et en termes d'accompagnement des enfants, parce que à 3 ans et 3 mois et à 3 ans et 12 mois, on est déjà sur des choses très différentes. Et puis au sein de ça, il y avait des profils différents d'enfants. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le petit, les deux trois petits, soit du fond de la classe qui parlait pas, soit les petits qui avaient des grosses problématiques sociales, soit je repense à un petit garçon qui avait un TSA, et donc voilà, je mettais beaucoup de choses en place pour l'accompagner aussi lui et qu'il trouve sa place dans la classe. Et donc il y a un moment, je me suis dit bon Non, c'est repart en psycho. Enfin, voilà, ça s'est construit comme ça et c'est à ce moment-là que je suis repartie du coup en troisième année de licence et après en master de psycho.
D'accord, c'était. T'as été appelée par ça en fait.
Ouais, ouais, je pense que ça me manquait depuis que j'avais arrêté, ça me manquait et j'ai en grandissant et en vieillissant, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait d'autres aspects de la psycho qui étaient plus intéressants que ceux que je rejetais clairement et que je pouvais. J'avais comme une première idée de me dire, en fait, je peux faire autre chose. Je savais pas trop quoi, mais je sentais qu'il y avait quand même quelque chose d'autre qui pouvait être possible.
Et donc, tu as décidé de concentrer ta pratique sur l'impact du social sur les personnes.
Ouais.
C'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est et comment ça se matérialise, en fait?
Ouais. Alors, au tout début, quand j'ai commencé à travailler, j'étais psychologue classique. Mon identité, c'était psy, j'essayais de coller aux normes. Et quand je suis devenue maman, 2019, là, il y a autre chose. Je suis passée de psy classique à psy engagée, en fait. Je pense qu'il y a eu quelque chose à ce moment-là. Et donc, la façon dont ça se matérialise en termes de pratique professionnelle, c'est que déjà, je me suis formée à plusieurs approches. Je me suis formée à l'approche systémique d'abord, où on voit plus large, on se décale de l'individu parce que ça me semblait évident. Puis ça faisait partie de ma formation de base aussi à la fac. Après, je me suis formée à d'autres approches. Je me suis formée à l'ACT, qui fait partie des TCC, la thérapie d'acceptation et d'engagement, où en gros, on prend acte du négatif, c'est-à-dire on vit, si je reprends les questions systémiques, on vit dans un système qui est merdique. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans pour continuer à avoir la force d'avancer et à s'approcher des valeurs qui comptent pour nous? Qu'est-ce qu'on peut mettre en action? Donc voilà. Et puis là, récemment, je me suis formée à l'EMDR. Donc l'EMDR, c'est la psychothérapie qu'on utilise beaucoup dans l'approche des traumas, du psychotraumatisme.
L'EMDR, elle avait par rapport au mouvement des yeux, là, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est pareil. Alors. En formation, on le voit pas comme ça. On parle pas des questions sociales. Hein. J'ai repris tous mes livres que j'ai, tous mes livres de psycho. Il doit y avoir, 4 pages des questions sociales. Donc là, quand je te le dis, c'est que moi, j'ai refait ma popote derrière. Hein. Et en EMDR, on va parler des grands T, donc des grands traumatismes. Par exemple, quelqu'un qui a vécu un accident et du coup, on va désensibiliser de ce côté-là. Et des petits T, donc c'est des petits traumatismes cumulatifs qui font sens avec les microagressions, par exemple. Là, c'est moi qui le dis comme ça. Et ça, je l'aborde. Voilà. Moi, avec mes patients, je vais questionner le social directement, en fait. Que ça soit la classe, que ça soit la race, que ça soit les questions liées aux violences sexistes et sexuelles. Et du coup, quand j'explique le fonctionnement et quand j'explique le MDR, quand j'explique ces petits T là dont je te parle et l'impact que ça peut avoir, je prends ces exemples-là. Et moi-même, hier, en expliquant à un patient, après, je suis retournée sur Instagram, j'ai vu l'actualité là du moment, à nouveau, et j'ai senti que moi, ça me déclenchait. Moi, personnellement, ça me déclenche ce qui se passe là. J'ai peur pour mon frère, j'ai peur pour mon neveu, j'ai peur pour ma fille. Et ça a vraiment sens, donc je l'incarne, et cet engagement, il passe par ce côté incarné-là.
D'accord.
Et du coup, c'est important pour moi de poser ça, de pas être appelé à tout ça.
Ça se répercute en fait depuis ton propre vécu et ta propre expérience. Et alors je précise parce que je ne sais pas quand l'épisode va sortir, que donc on enregistre cet épisode. Ouais. On est le 29 juin. Si jamais vous l'entendez plus tard, quand on parle d'actualité, vous reportez à ce qui vient de se passer et vous saurez un petit peu de quoi on est en train de parler. Aussi. C'est vraiment intéressant ce que tu dis et ça questionne quand même. Vous vous demandez pourquoi il n'y a pas plus de pourquoi est-ce que finalement les chercheurs, les personnes qui ont écrit, etc., n'ont pas pris en compte ce côté-là qui pourtant semble ça semble évident en fait que ça a une répercussion et pourquoi finalement ce n'est pas c'est pas documenté, c'est pas académique, quoi.
Ah, disons que ça l'est, mais dans les bouquins. Enfin, des expériences de laboratoire. La psychosociale, elle est quand même assez riche, mais le passage de la psychosociale à la pratique clinique, donc à la pratique qu'on fait en tant que psychothérapeute et en tant que psychologue clinicien, elle se fait pas. Enfin, peu, un petit peu, ça commence. Mais c'est vrai que c'est assez hermétique.
C'était resté dans la théorie.
Ouais.
Et qu'on ne sait pas vraiment comment le faire passer dans la pratique.
Ouais,
quoi.
C'est très, 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 très peu abordé. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu me saisir de ça en me disant, ben, non, en fait. Pour les personnes, ce n'est pas juste. Enfin, non.
C'est vrai. Et donc, toi, par rapport à donc, toi, qui tu es, toi, et ton historique familial, culturel, etc., comment tu abordes ça et comment tu arrives aussi à prendre une certaine distance, à te préserver, dans ta pratique.
Alors c'est une des grandes questions. Alors moi, en tant que les psychologues en général, on se fait superviser. Mm-hmm. Et pour notre pratique, moi je me fais superviser pour la partie technique, mm-hmm. en MMDR par exemple, en TCC je me suis fait superviser assez longtemps. Pour ces questions-là, c'est compliqué parce que justement c'est un angle mort pour quand tu me demandais pourquoi dans la pratique, c'est pas des choses qui sont très abordées, parce que psychologue, c'est un métier favorisé, privilégié. À la fac, au début, en première année, on est tout plein différent. Et puis en dernière année, tout d'un coup, ça se blanchit. Donc du coup, ça explique à mon sens. Et pour trouver un ou une superviseuse qui amène ça, il n'y a pas trop. Donc du coup, moi, avec une copine, on a créé une association de psy. Okay. Qui s'appelle PsyS, Psy.S, le S c'est pour social et pour pluralité, et où on pense les enjeux sociaux dans nos pratiques, et donc on se fait des intervisions où on pose ces questions-là, donc ça permet de pas être seul face à tout ça. Cette copine avec qui j'ai créé PsyS, du coup c'est un peu mon mon espace aussi, discuter avec elle pour poser ces trucs-là quand moi ça peut me travailler aussi. C'est vrai que quand j'ai des patients qui vivent des injustices, ça remue aussi. Je suis un être humain avant d'être psychologue, et voilà. Donc voilà, il y a le collectif, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer mon organisme de formation pour avoir ces espaces-là, pour pas être tout seul, parce que c'est pareil, hein, se former tout seul à ces questions-là, c'est perpétuellement réactiver des choses difficiles. C'est perpétuellement se confronter à des déclencheurs, parce que moi je m'éloigne des réseaux sociaux et des sujets qui peuvent être violents, parce que je le vis, en fait.
D'accord, c'est vraiment intéressant comme approche que vous avez décidé de vous mettre ensemble, finalement. Ouais. Et de travailler ensemble. L'union fait la force, hein.
Ouais.
Et ça permet de faire aussi du brainstorming et de voir comment proposer des nouvelles choses à mettre en place, etc. Donc, c'est vraiment super. Et comment donc, t'es maman d'un enfant en bas âge. Comment tu arrives à t'organiser, à gérer ton quotidien pour ta vie de famille?
Alors, ça aussi, c'est une chose importante pour moi. C'est une chose aussi que qui compte pour moi de le partager. C'est que moi, longtemps, très, 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 très longtemps, quand je dis longtemps, c'était jusqu'à presque la semaine dernière, hein, parce que jusqu'à hier, parce que jusqu'à ce matin, c'est toujours, en fait, j'ai cru qu'en tant que femme racisée, qui n'est pas à sa place, parce que je me sens pas toujours à ma place en tant que professionnelle avec les collègues, ça va mieux, mais bon, ça a été longtemps compliqué. Fallait que je me contente de peu. C'est-à-dire un petit job à temps partiel, mal payé. J'ai toujours cru que mon plafond, c'était 1400 euros net. Et que je pouvais pas être maman et épanouie professionnellement, ou en tout cas avoir des revenus confortables. Et finalement, j'ai fini par dire merde, et puis on dit non. Et voilà, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de partager, parce que j'ai envie de dire aux autres femmes comme moi, déjà, on a besoin de vous, venez, prenez votre place, putain. Voilà, Rokhaya Diallo, ne reste pas à ta place, allez-y les filles. Euh, et, euh, et que en fait on peut s'en sortir. Donc moi je suis passée à 100% libérale en janvier aussi pour ça, parce que du coup j'organise mon temps de travail, je gagne bien ma vie, je diversifie parce que du coup je suis une trouillarde évidemment, hein, avec tout ça on est quand même un fond de tout peut s'écrouler, 1 400 euros, enfin, c'était énorme, hein, pour moi à l'époque, hein. Donc je diversifie mes activités pour me sécuriser. Et puis et du coup voilà, avec mon conjoint, voilà, c'est lui qui prend son mercredi. Donc du coup elle est avec lui, ça leur permet de créer une belle relation tous les deux. Moi je bosse et puis bah, le reste du temps bah, je finis très tôt le soir et je peux la récupérer. Donc ça permet aussi, voilà, d'être sur quelque chose de très confortable pour nous tous. Et c'est ultra important pour moi. Je veux pas faire de concessions, ni d'un côté ni de l'autre. Et je pense que le switch, il s'est fait quand je me suis dit, bah, je peux être une professionnelle qui a des tarifs corrects, qui fait plusieurs activités et qui prend sa place et qui va répondre à un appel d'offres, là, comme j'ai fait pour travailler au département, en me disant, eh ben, je le fais quand même. Et puis, ça a marché. Donc, voilà.
C'est super. Moi, j'adore entendre ça, ce que tu viens de dire là. C'est super. Je trouve c'est extra parce que c'est un déclic que tu as eu et que d'autres n'ont pas encore, alors que elles ont toutes les capacités en fait. Elles ont peur, elles ont des appréhensions. Voilà, il y a le plafond de verre, il y a il y a une autre expression, j'arrive jamais à m'en souvenir, c'est le plancher collant, je sais plus, je vais dire une bêtise, mais j'ai déjà entendu cette expression qui est discutée pour les personnes racisées. Et c'est vraiment super. Tu peux être fière de toi, en tout cas.
Oh, c'est
J'espère que
gentil.
tu l'es. Et j'espère aussi que les personnes qui vont écouter cet épisode, ça pourra les aider à se motiver, en fait, pour tendre le bras vers ce qui est accessible et
C'est
qui est
ça.
pour elles et qui va, voilà, les aider à aller plus loin dans leur vie.
C'est vrai que je parle pas de. Alors souvent on parle de d'autocensure. Moi, je suis pas d'accord avec ce terme. C'est de la sociocensure. J'ai appris. C'est appris, c'est acquis en fait que non, c'est pas pour nous. Donc non. Et du coup d'avoir verbalisé ça comme ça aussi. Et d'en avoir parlé avec plusieurs personnes, bah, ça m'a permis aussi de me dire, bah, en fait, ça m'appartient pas, ça, non? Non, je veux plus laisser tout ça décider pour moi. Mais bon, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure pour mes études, là, j'en parle comme ça, c'est compliqué au quotidien, hein,
Et puis c'est un parcours quoi. Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain.
c'est ça.
Genre, on finit d'écouter cet épisode, on se dit, oui, c'est bon, allez, j'y vais, je postule tout de suite. Non,
Non.
c'est un processus, ça prend du temps et ça peut être aussi intéressant d'ailleurs de parler, de travailler dessus avec des professionnels,
Oui.
des thérapeutes, des psychothérapeutes, tout ça peut être aussi intéressant.
Notamment des thérapeutes qui pratiquent l'acte, ce que je disais au début de, il y a ça, qu'est-ce que je décide de mettre en place dans ce contexte-là pour m'épanouir malgré tout.
Et tu disais que tu travaillais pour le département, qu'est-ce que tu fais pour eux?
Donc c'est des investigations que je fais dans le cadre de, donc pour la protection de l'enfance. Donc,
D'accord.
voilà, dans le cadre des adoptions et pour les familles d'accueil.
Ah, tu vas dans les familles ou bien
Je
tu fais
rencontre
de la recherche?
les personnes qui souhaitent adopter
Oui.
les personnes qui souhaitent devenir famille d'accueil. Donc on fait des entretiens,
D'accord.
je vais au domicile et puis après
Ah
ils viennent au
oui.
cabinet.
Ah d'accord. Ah ben ça c'est super. Et ben il y a pas longtemps, bon par rapport au moment où on enregistre cet épisode, donc c'était le dernier, on a parlé d'adoption. C'était bon, c'est un cadre encore différent parce que c'était c'est Marie qui a été arrachée à sa maman au Guatemala. Et il y a eu un trafic d'enfants, elle s'est retrouvée en France, etc. Donc c'est encore une histoire différente, mais c'était sur le sujet aussi de l'adoption. Donc si jamais le sujet de l'adoption parle, vous qui écoutez ces épisodes, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode où Marie parle de son histoire. Et c'est super, super intéressant, enrichissant.
C'était aussi un choix que j'ai réfléchi longtemps. J'en avais beaucoup parlé avec mon fils en rose, Charline, avant de postuler, parce que en fait, je voulais que quelqu'un qui ait ce background social, voilà. Et du coup, c'est ces questionnements-là dont tu parles. Du coup, j'ai hâte d'écouter cet épisode-là aussi. Enfin, en gros, je me disais, ben, il faut prendre ma place dans cet espace-là aussi pour avoir à minima porté ces questions sociales dans ce sujet-là qui est ultra important. J'accompagne pas mal de personnes qui ont été adoptées au cabinet. Mmh. Et le point de vue de l'adoption est trop souvent vu du côté des adoptants. Et c'est important pour moi, même dans les investigations, d'amener ces choses-là aussi et de les prendre en compte.
En effet, mmh. C'est primordial. Super, Diana. Est-ce que tu aurais un ou deux ou trois conseils ou bien pistes de réflexion à partager avec nous, aussi bien nous, les parents, que les professionnels, pour mieux prendre en compte justement l'impact social de la psychologie.
Alors, pour les professionnels, je parle. La première chose qui me vient là comme ça spontanément, c'est les angles morts. On a des angles morts. Il faut en prendre conscience. Il faut s'informer pour savoir qu'il y a les angles morts, parce que tant que tu sais pas, tu regardes pas à l'arrière. Donc tout ce qui nous touche pas, et même quand on est concerné. Parfois, on a des angles morts parce que ben on a intériorisé des choses, parce qu'on n'a pas envie de les voir, parce que on peut pas se permettre de faire l'économie de ça. C'est ultra important. Et en tant que parent et en tant que parent multiculturel aussi, ben moi je suis blanche, ma fille se définit comme noire, et ben je il y a des choses que je vois pas, et c'est ultra important dans les couples multiculturels. On peut pas se résumer, on peut pas nier les choses. C'est ultra violent, en fait. Ça fait des dégâts de nier la réalité des gens. On la connaît pas. C'est une posture d'humilité, et ça vaut autant pour les parents que pour les professionnels. Et puis au niveau des parents, donc quand on avait discuté du sujet qu'on aborderait aujourd'hui, je t'avais dit, moi, le sujet de la parentalité telle qu'elle est débattue en ce moment, un peu partout et sur Instagram, je veux plus être là-dedans, parce que pour moi, c'est un débat de privilégié dans les deux côtés. Par exemple, les gamins de protection de l'enfance, personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Ou alors, on en parle pour dire, nous, on n'est pas ces parents-là. Donc, du coup, c'est d'autant plus violent. Et donc, c'est plus... Voilà, je m'y retrouve plus du tout, parce que j'en ai... Voilà, c'est des sujets dont j'ai beaucoup parlé à l'époque. Et du coup, je l'incarne différemment. Et moi, j'accompagne les mamans. Je reçois quasiment plus d'enfants au cabinet. J'accompagne les mamans. Bon, c'est souvent des mamans hein, qui m'emmènent leurs enfants. J'accompagne les mamans à accompagner leurs enfants. Et au même titre, j'accompagne les pros à accompagner les gens. Je trouve que ça, voilà, ma place à moi, elle est plus là. Et quand on accompagne quelqu'un, bah, faut l'accompagner à s'accompagner elle-même aussi, lui avoir confiance en elle, lui donner du pouvoir. Et ça vaut pour nos enfants aussi. Donc voilà, s'il y a une chose là, que voilà, c'est celle-là. Checkez vos angles morts et ne niez pas la réalité des autres. Que ce soit vos enfants, que ce soit les gens que vous accompagnez, que ce soit vos collègues. Et positionnez-vous. En tant que parent, on se positionne pour protéger nos enfants. Alors, parfois, c'est pas facile. On peut demander de l'aide à une copine, à l'école, des fois. Hein, c'est pas évident du tout. C'est aussi pour ça, quand je te parlais de l'association, voilà, on en parlait avec ma collègue à qui on a créé l'asso, ben, moi, je vais aborder les sujets du racisme dans l'asso et on va l'aborder à deux parce qu'elle, elle n'est pas concernée. Ça sera plus facile pour elle de se positionner sur certains points, plus facile pour moi d'autres. Et on se transmet la balle. Et créer ça, essayer de créer des collectifs, hein, je pense au front de mer de Fatima Wasak, de ne pas être tout seul parce que c'est trop dur.
C'est dur d'être seul, donc.
Ouais.
Mettons-nous ensemble,
ouais.
Travaillons ensemble, réfléchissons ensemble, soutenons-nous et célébrons aussi, hein,
c'est
ensemble.
Ça. Ouais.
Les victoires et c'est super. Merci Diana.
Merci Lauriane.
Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, t'aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, plusieurs options s'offrent à toi. Et dans tous les cas, je te remercie d'avance. Tu peux laisser des étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute, le partager en me taguant sur les réseaux sociaux et même en transférer directement le lien à tes proches que le sujet pourrait intéresser. Si tu veux aller plus loin sur les thèmes abordés dans le podcast, inscris-toi à la newsletter sur orema.fr/newsletter et reçois le mail du lundi pour découvrir les coulisses du podcast et des astuces actionnables pour mieux communiquer. Ton inscription te donne aussi accès à la boîte à succès des mères entrepreneurs, une bibliothèque de plus de 30 ressources pour optimiser ta communication et tendre vers un meilleur équilibre vie pro-vie familiale. Enfin, rejoins-nous sur Instagram @orema-communauté pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à samedi prochain pour un nouvel épisode.